Lille. Il est 8h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
À la une ce matin, dépression, troubles du sommeil, retard de développement, myopie, les écrans empoisonnent-ils nos enfants? Eh bien oui, estime un rapport qui va être remis aujourd'hui au gouvernement. La solution, l'interdiction progressive en fonction de certains âges. On va voir ça dans un instant, dossier européen ce matin. Dans ce journal également, Rima Hassan et Mathilde Panot, entendues par la police judiciaire ce matin. La candidate LFI aux européennes et la patronne du groupe à l'Assemblée nationale sont convoquées pour apologie du terrorisme. Europe 1 en direct de la police judiciaire dans le 17e arrondissement de Paris dans un instant. L'économie française, plutôt solide. Bruno Le Maire se réjouit ce matin après la publication des chiffres de la croissance du premier trimestre 2024, plus 0,2%. Et puis demain, le 1er mai, ce qui rime avec muguet. Attention, les petites clochettes blanches vendues dans la rue à la sauvette, où peut-on peut-être été dérobé chez un professionnel. Les producteurs s'équipent de plus en plus contre les vols. 8h10, juste après ce journal. Sonia Mabrouk, ce matin, votre invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité, le vice-président RN de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu. Le débat politique s'enflamme après la mort du jeune Matisse à Châteauroux. Et puis, nous évoquerons bien sûr les suites et les conséquences des manifestations pro-palestiniennes, que ce soit à Sciences Po Paris ou à la Sorbonne. À tout à l'heure.
Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On l'a tous vu, hein, notre enfant hébété devant la télé, absorbé par une tablette au point qu'il n'entend même plus quand on lui dit à table ou après ça on éteint. Les écrans, faux amis des parents, ennemis des enfants, c'est ce que souligne un rapport commandé en janvier dernier par Emmanuel Macron et publié aujourd'hui. Bonjour Louise Salé.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Vous avez décortiqué pour Europe 1 les conclusions de ce rapport réalisé par 10 experts, des médecins, des psychiatres, des psychologues, des associatifs, et ils le martèlent, les écrans, c'est pas avant 3 ans.
Oui, c'est une règle simple, connue certes, mais qu'il ne faut cesser de rappeler, car les effets sur le cerveau sont bien plus dévastateurs chez les tout-petits. Pour le téléphone, il faut attendre 11 ans, les experts recommandent même aux parents d'acheter un portable sans internet au collège, d'éviter les réseaux sociaux avant 15 ans, en privilégiant des plateformes dites éthiques, comme Blue Sky, et de s'abstenir d'aller sur Snapchat ou TikTok avant ses 18 ans, des sites pour lesquels il faudrait d'ailleurs combattre les algorithmes qui favorisent l'addiction, notent les membres de cette commission. Alors attendre la majorité pour s'y rendre, hein, c'est sans doute un vœu pieux, mais qui peut être aidé par un autre cadre que celui des parents, instauré cette fois-ci à l'école, où les écrans doivent être limités. Pour les rapporteurs, il faut ainsi supprimer tout type d'outils numériques en maternelle, interdire le téléphone dans l'enceinte du collège, c'est déjà le cas mais ce n'est pas toujours respecté, et expérimenter des lycées sans portable.
Merci Louise Salé du service Société d'Europe 1.
Alors justement, les écrans à l'école, on en parle ce matin sur Europe 1 avec vous, Clémence Ababa, bonjour.
Bonjour.
Clémence Ababa, vous enseignez l'histoire géo dans un collège parisien et vous militez au sein du collectif Éducation numérique raisonnée qui combat justement l'utilisation des écrans à but pédagogique dans les classes. Alors tablettes, tableaux numériques, les experts préconisent de les interdire à la maternelle. On est un peu surpris de cette information, ce n'est donc pas le cas aujourd'hui.
Eh bien, d'après les témoignages que nous avons reçus via notre collectif, nous avons en effet entendu parler d'écrans en maternelle, soit par l'utilisation de la télévision, en fait, soit les enseignantes peuvent être équipées de tablettes et demander aux élèves de passer sur des tablettes. Oui, on pense que c'est un moment où l'enfant doit développer le langage, l'attention, les connexions avec les autres enfants, avec les enseignants, les autres adultes, apprendre à s'exprimer, et le fait de passer par des tablettes empêche le développement cognitif et empêche aussi la communication. Donc c'était très embêtant de voir ces écrans envahir les maternelles.
Clémence Ababa, pour le primaire et le secondaire, ce rapport recommande d'adapter les outils en fonction de l'âge pour former les élèves au numérique, mais pas de les interdire. Vous souhaitez aller plus loin ?
On aimerait en effet qu'il n'y ait aucun non plus écran en classe de primaire et qu'on fasse vraiment travailler les enfants sur des livres, le retour aux livres, le retour au papier, au crayon. On a des enfants qui ne savent pas bien tenir leur stylo, qui passent toujours par des écrans en fait. Et c'est pareil, j'ai entendu qu'il y avait dans des écoles primaires la volonté de donner les devoirs par exemple de manière numérique. Ça, c'est pas possible. Dans le futur, ça va créer des enfants qui ne sauront plus écrire. c'est compliqué.
Enfin, c'est comme en médecine, hein, bénéfice-risque. Il faut qu'on calcule, en fait, jusqu'à quel point, en fait, le fait de se faciliter la tâche par cette espèce d'envoi numérique qui peut être finalement pas tellement intéressant, peut être nocif aussi pour les enfants parce qu'on se rend compte qu'ils ne lisent plus, qu'ils ne sont plus attentifs. Donc, il verra passer des images, il verra passer des textes, mais il n'aura pas assimilé les connaissances et donc il ne sera pas capable d'avoir après une construction intellectuelle qui soit valorisante pour lui, pour l'avenir.
Merci beaucoup Clémence Ababa. Je rappelle le nom de votre collectif, hein, Éducation numérique raisonnée. Votre éclairage à retrouver sur europe1.fr.
Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05.
À la une également ce matin, Gérard Depardieu, il sera jugé au mois d'octobre.
Annonce du parquet après la levée de sa garde à vue hier, la star de 75 ans devra répondre des plaintes de 3 femmes qui l'accusent d'agressions sexuelles commises entre 2014 et 2021. Et puis à Châteauroux, l'adolescent de 15 ans d'origine afghane a été mis en examen pour le meurtre du jeune Mathis, placé en détention provisoire hier soir. Sa mère, également mise en examen du chef de violence volontaire pour avoir asséné des gifles à la victime, a été placée sous contrôle judiciaire.
Et puis deux insoumises devant la police judiciaire ce mardi. Rima Hassan, qui figure en 7e position sur la liste LFI pour les européennes, et Mathilde Panot, la patronne du groupe LFI à l'Assemblée nationale, toutes deux convoquées ce matin.
Oui, pour répondre d'accusations d'apologie du terrorisme après un communiqué publié le 7 octobre qui tentait de justifier les massacres du Hamas en Israël. Alexis de La Fontaine, vous êtes devant la PJ dans le 17e arrondissement où LFI a prévu de mobiliser ses troupes. Pour le moment, on ne peut pas vraiment parler de succès.
Eh bien Fanny, pour l'instant, presque personne n'a répondu à l'appel de la France Insoumise. Ils sont une dizaine ici, porte de Clichy, et même Jean-Luc Mélenchon devrait être absent. Il faut dire que la PLUS est invitée à l'événement. Alors une petite tente a été installée. Rima Hassan et Mathilde Panot, elles seront bien présentes dans quelques minutes, avant leur convocation à 9h30. Pour dénoncer la censure dont elles disent être victimes en raison de leur discours antisioniste. En réalité, les enquêteurs souhaitent entendre une clarification de la part des deux insoumises, car Rima Hassan avait qualifié de légitimes les actions du Hamas et Mathilde Panot avait nié le caractère terroriste des attaques du 7 octobre. À la sortie de cette convocation, si leurs explications sont jugées insuffisantes par la justice, elles risquent toutes les deux d'être mises en examen pour apologie du terrorisme.
Alexis de La Fontaine en direct du tribunal de Paris pour Europe 1.
Les élections européennes, c'est dans moins de 6 semaines et c'est toujours le camp de Jordan Bardella qui caracole en tête des sondages.
30% d'intention de vote selon le dernier baromètre Opinionway pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. Sur la deuxième marche du podium, bien loin derrière, à 18% d'intention, la tête de liste de la majorité, Valérie Ayer. Campagne poussive pour Renaissance, mais Jacques Serret, la Macronie semble enfin décidée à passer à l'offensive.
Gabriel Attal est prêt à sonner la charge. C'est au tour de lui et de la candidate Valérie Ayer que se réunira ce soir au siège de Renaissance le premier comité de campagne. L'objectif est de resserrer le dispositif pour créer un élan, glisse un cadre du parti. Nous devons arrêter de penser à la défaite, s'emporte un ministre. Il faut arrêter de songer à l'après 9 juin et faire campagne. Maintenant, après un débat face à Jordan Bardella jeudi, Valérie Ayer dévoilera donc une grande partie de la composition de sa liste ce vendredi. Dans le même temps, à la demande d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal annonce prendre au mot le leader du Rassemblement National qui réclamait un débat avec lui. Il se dit prêt à l'affronter. C'est simple, on arrête d'être sur la défensive et on passe à l'attaque, résume un membre du gouvernement. Bardella ne parle pas, ne se dévoile pas. Notre enjeu est de lever ces hypocrisies, décrypte un stratège de la campagne qui poursuit. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est la mobilisation de notre camp. Autrement dit, réveiller les convaincus plutôt que de s'affairer à séduire de nouveaux électeurs.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
La croissance en hausse. Les chiffres de l'INSEE pour le premier trimestre 2024 sont tombés il y a une demi-heure.
Le PIB de la France progresse de 0,2%, soutenu par la consommation des ménages et les investissements des entreprises. Cela traduit la solidité de l'économie française, se réjouit ce matin le ministre des Finances Bruno Le Maire.
Et puis c'est la star du 1er mai, il y en aura partout demain, le muguet.
Porte-bonheur traditionnel qui fait la joie des producteurs, mais qui leur occasionne aussi quelques nuits blanches, car à l'approche du 1er mai, les voleurs de clochettes passent à l'action. Il faut donc protéger les récoltes. Illustration dans le Nord, près de Dunkerque. Reportage du correspondant d'Europe 1, Lionel Gougelot.
C'est un trésor sous haute surveillance. 140 000 pieds de muguet cultivés sous serre ici depuis 8 semaines par Bruno Houbert. Une production qu'il a fallu sécuriser pour éviter les cambriolages.
On fait très attention à tout ce qui part, tout ce qui rentre, qui arrive, pourquoi, pour quelle chose. Tout est fermé, on a des caméras de surveillance. Elles sont à l'extérieur, dans les établissements. On évite de dire où on plante du muguet. Et c'est surtout les derniers moments, comme maintenant.
Car à l'approche du 1er mai, il a même fallu parfois renforcer le dispositif.
On avait vu qu'on allait être cambriolés. On avait des gens la journée qui tournaient. On a pris des vigiles pour une nuit. C'était incroyable quand même. Hein.
Un muguet volé, objet de trafic souvent juteux.
Compte tenu du prix et du peu d'encombrement, c'est facile à prendre une centaine de pots. Hein. Ça, c'est pas un problème. Mais une centaine de pots à 5-6 euros minimum, ça vous fait tout de suite 600 euros. Quoi, hein. C'est pour ça que c'est très convoité.
Alors méfiance, prévient le producteur, un muguet en pot vendu sur le trottoir peut être d'origine suspecte.
Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on achète des pots de muguet avec une collerette, etc. et qu'on le vende sur la rue. C'est qu'on l'a soit volé, soit acheté dans un marché particulier. Quoi.
D'où l'importance, selon Bruno Aubert, de mieux contrôler la vente à la sauvette. À Lefrancouc, Lionel Gougelot, Europe 1.
Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, Sébastien Chenu est l'invité de Sonia Mabrouk.
7h, 9h, Europe 1 matin.
En 2024, les enjeux pour l'économie du sport en France sont nombreux. Comment cette année sportive servira-t-elle de vitrine aux entreprises tricolores? Réponse ce soir dès 21h sur Europe 1 dans La France Bouge, présentée par Elisabeth Assayag avec Alain Di Crescenzo, le président de CCI France, en partenariat avec la CCI Bayonne Pays Basque.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, elles sont à 2,69€.
Les fraises rondes ?
Eh oui, en ce moment chez Lidl, la barquette de 500 grammes est à 2,69€.
Alors, ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Bah oui, je vous en ramène une barquette avec de la chantilly, ça vous dit ?
Alors toi, tu ramènes ta fraise parce que t'es mal embarqué.
En barquette patron, en barquette.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. 5,38€ le kilo, catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Depuis 3 ans, plus de 1300 salariés d'Amazon ont bénéficié de formations diplômantes reconnues par l'État. Anna a suivi une formation de technicien de maintenance. En seulement 2 ans, elle est passée de préparatrice de commande à technicienne diplômée. Désormais, elle porte une combinaison et un casque de chantier. Et sa fille trouve qu'elle ressemble à une super-héroïne. Chez Amazon, nous sommes résolus à favoriser les formations diplômantes pour les salariés des sites logistiques, sous condition d'éligibilité.
Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Indispensable à notre équilibre digestif, le microbiote joue également un rôle essentiel sur notre cerveau. Mais comment bien le soigner ? Traitements et médicaments existent désormais. Le Figaro Santé consacre son nouveau dossier au microbiote. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux.
À tous ceux qui en ont marre qu'on leur parle de pouvoir d'achat. C'est vrai, il y a mieux comme pouvoir, comme être invisible. Vous me voyez là ? Eh ben non, vous me voyez pas, je suis dans la radio. Parce que le pouvoir d'achat, c'est quand même bien. Intermarché s'engage et vous propose le produit le moins cher de France. Les poires Williams demi-fruits au sirop léger Paquito sont à seulement 1,81€. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 5 mai, 455 grammes, soit 3,98€ le kilo. Poire française sur la base d'un relevé en date du 29 avril. Voir méthodologie sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
40 ans de regard incisif sur l'Amérique. C'est ce que propose le musée Mayol en présentant une grande rétrospective de l'artiste américain Andrés Serrano. Plus de 80 photographies révèlent une Amérique aux mille facettes. Religion, sexe, pauvreté, racisme, Andrés Serrano explore tous les tabous de son pays. Andrés Serrano, portrait de l'Amérique, une exposition au musée Mayol à Paris. Un partenariat Europe 1.
Europe 1 matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Tout de suite sur Europe 1, le vice-président de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu, est l'invité de Sonia Mabrouk.
Bonjour Sébastien Chenu.
Bonjour madame.
Et merci de votre présence. Vous êtes député RN du Nord et vice-président du Rassemblement National à l'Assemblée. Dans le meurtre du jeune Mathis, Sébastien Chenu, le jeune Afghan et sa mère ont été mis en examen. Lui pour meurtre, elle pour violence volontaire. Elle est soupçonnée d'avoir asséné des coups à Mathis après qu'il ait été poignardé. Le père de Mathis demande à tous d'attendre la fin de l'enquête. Je cite ses phrases, de ne pas partir dans la haine et faites attention à tous les bords de droite et d'ailleurs qui s'approprient ce genre de choses. Est-ce que ce sont des paroles raisonnables à suivre, à écouter aujourd'hui ?
Moi, je veux avoir une pensée d'abord pour Mathis, cet adolescent qui a perdu la vie, victime effectivement de ce jeune Afghan qu'il a assassiné. Je respecte les propos du papa, évidemment, et la douleur de la famille. Mais moi, mon rôle, nous, notre rôle aux politiques, ce n'est pas d'être dans le déni, ce n'est pas de tourner les yeux, de regarder ailleurs, c'est de trouver des solutions. Or, le problème, c'est que ceux qui nous gouvernent sont dans le déni. La situation situation est hors de contrôle. Les mesures qui sont proposées sont extrêmement faibles et la situation ne cesse de d'être de pire en pire. Si vous voulez, chaque jour, on a le sentiment qu'un jeune dans notre pays se fait tuer, assassiner. Cette situation hors de contrôle mérite une réponse excessivement ferme. Aujourd'hui, je ne la trouve pas. Et c'est vrai que nous, les politiques, nous devons prendre nos responsabilités. C'est ce qu'on fait, nous, au Rassemblement national. On aimerait que le gouvernement soit un peu plus dur sur la question.
Mais sur quel sujet ? Parce que là, le débat est ouvert. On verra quelle orientation on va prendre sur la levée de l'excuse de minorité. Vous, de votre côté, le RN dénonce la politique migratoire du gouvernement. Mais est-ce qu'à dire, Sébastien Chenu, qu'au pouvoir, il n'arriverait pas ce genre de drame avec vous ?
Mais d'abord, si vous voulez, moi j'en veux effectivement au gouvernement parce que non seulement ils sont dans le déni, mais ils ont criminalisé ceux qui, comme le Rassemblement national, pendant des années ont fait des propositions. Nous, on a fait des propositions. Vous parlez du débat sur l'excuse de minorité. On a une proposition de loi qui a été déposée par un de nos députés, Lionel Tivoli, député des Alpes-Maritimes. Ça fait longtemps qu'on a demandé à ouvrir ce débat. On nous a envoyé voir ailleurs. On a demandé que les familles, puisque c'est un autre levier, la responsabilisation des familles. On nous a dit, regardez ailleurs. On a dit, il faut ouvrir le débat sur l'immigration. C'est un Afghan. L'Afghanistan est le premier pays qui émet des demandeurs d'asile sur notre territoire. On nous a dit, vous êtes des racistes,
et aujourd'hui,
etc.
Le Donc, débat si voulez... sur pas mal de choses est ouvert. Est-ce que vous dites que c'est un pragmatisme, finalement?
Mais je ne sais pas si le débat est ouvert, en réalité.
Sur la levée de l'excuse de minorité.
Ben, on va voir où ça va aller. Mais sur la levée de l'excuse de minorité, on va voir où ça va aller. Sur la responsabilisation des familles, et notamment le fait de pouvoir supprimer, même temporairement, un certain nombre d'allocations familiales, le gouvernement a dit non. Sur les sanctions pénales, les aménagements de peine, nous on a dit il faut cesser les aménagements de peine. Visiblement, le gouvernement n'est pas sur cette longueur d'onde-là. Il y a d'autres choses, par exemple les audiences. On dit, nous depuis longtemps, il faut que les peines tombent vite et qu'elles soient adaptées. Les audiences aujourd'hui, quand vous êtes un mineur qui commettait une infraction, vous êtes d'abord jugé sur votre culpabilité, puis des mois après, vous avez une sanction éventuelle.
Donc vous redemandez une nouvelle réforme de la justice.
Mais on demande déjà qu'on applique déjà les textes qui existent et qu'on arrête de les aménager au bénéfice des coupables. Parce que le problème, c'est qu'ils sont aménagés au bénéfice des coupables. Les places de prison, les places dans les centres dans ce qu'on appelait les centres qui ne sont pas des centres de redressement, mais tout ça a été promis, n'a pas été tenu. Emmanuel Macron avait dit, on doublera le nombre de places pour les mineurs délinquants. Ça n'a pas été fait. Donc, évidemment, tout est à revoir. Les petites réponses du gouvernement n'amèneront que de petits résultats, je le crains.
Peut-être que le Premier ministre amènera davantage de réponses lors du débat qu'il a finalement accepté avec Jordan Bardella. Vous l'aviez demandé il y a quelque temps, j'imagine que vous l'acceptez encore aujourd'hui, avec plus de risques finalement. Vous êtes haut dans les sondages pour les européennes. Est-ce qu'il y a plus de risques à débattre aujourd'hui avec le Premier ministre ?
Mais faire de la politique, c'est prendre des risques et assumer ses convictions, c'est prendre des risques.
On est heureux de l'entendre, parce que Jordan Bardella n'a pas accepté beaucoup de débats, monsieur.
Bon, enfin, il va en faire 7. Je crois qu'il en fait un chez vous d'ailleurs le 30 de ce mois. Donc il va faire 7 débats. Il fait des meetings dans toute la France. Vous savez, quand on fait des meetings, on se rend compte qu'on est les seuls, nous, au Rassemblement National, à aller voir les Français pour l'élection européenne du 9 juin.
Vous reconnaissez personne... que c'est mieux une confrontation entre les têtes de liste.
Eh bien, elle va venir, mais je n'ai pas le sentiment que Gabriel Attal était très demandeur de cette confrontation.
Il est Premier ministre, hein, il n'est pas tête de liste.
Oui, mais il est chef de la majorité également.
Il est quand même...
Et Jordan Bardella lui a proposé il y a longtemps ce débat. Il a mis beaucoup de temps à répondre. On a le sentiment que ça sonnait un peu occupé, si vous voulez, le téléphone.
Mais pardonnez-moi, est-ce à dire que les autres têtes de liste ne sont pas assez, j'allais dire, au niveau de votre point de vue pour débattre en tête à tête avec M.
Bardella ? Il y aura des débats avec les autres têtes de liste, c'est sans aucun problème. Mais je pense que les deux visions qui s'oppose le plus. La vision libérale, mondialiste, laxiste d'Emmanuel Macron et notre vision d'une Europe qui protège, d'une Europe qui produit, celle que porte Jordan Bardella, sont effectivement les deux plus intéressantes à être confrontées parce qu'elles sont les plus différentes. Et puis c'est l'occasion aussi, il faut bien le dire, puisque Gabriel Attal entre dans l'arène, eh bien il faudra qu'il en tire les conséquences.
C'est-à-dire
si le résultat de la candidate qu'il soutient, qui a disparu un peu des écrans, Madame Hayer, eh bien, est très faible, est très mauvais, il faudra en tirer les conséquences. Ça voudra dire que les Français, le défi, les Français ne font plus confiance en ce gouvernement, et moi je pense qu'à partir du moment où on entre dans l'arène, eh bien, il faut savoir tirer les conséquences politiques.
Ça, c'est le président de la République qui décidera, et effectivement, le débat se tiendra le 30 mai sur CNews et Europe 1. Hier, Monsieur Chenu, plusieurs dizaines d'étudiants se sont rassemblés à la mi-journée à la Sorbonne lors d'une mobilisation pour Gaza et contre, disent-ils, le génocide en cours. Le Premier ministre a demandé l'évacuation, une opération d'évacuation s'est tenue. Est-ce que, sur ce sujet-là, il fait preuve d'autorité, selon vous ?
Non mais écoutez, ça fait des semaines qu'on a vu le braquage de LFI, que LFI a fait de Sciences Po. Braquage salué par les autorités religieuses iraniennes, les ayatollahs iraniens, trouvaient ça très bien, vous me direz, entre ayatollah de LFI et ayatollah iranien, on se comprend probablement. Et donc on a vu ce
entre
braquage...
Entre Khamenei et oui, la France Insoumise, même combat.
À partir du moment où tous ces gens trouvent le Hamas plutôt légitime, plutôt n'étant pas considéré comme une organisation terroriste, puisque je rappelle que jamais un dirigeant de LFI, la France islamiste, n'a qualifié le Hamas d'organisation terroriste. Oui, effectivement, je pense que tout ça participe de la même chose, c'est-à-dire de la détestation d'Israël.
Vous allez les faire réagir, la France islamiste. Hein.
Oui, mais c'est ce qu'ils sont. D'ailleurs, ils parlent à des gens qui sont sensibles à ce discours islamiste. C'est toute la stratégie de Jean-Luc Mélenchon.
Qui sont ces gens?
Ce sont des gens qui aujourd'hui considèrent qu'Israël doit disparaître. C'est ce que dit Madame Hassan en réalité. Alors elle l'assume pas tout à fait parce que elle a des propos sur les réseaux sociaux. Puis quand elle est devant vous ou devant l'un de vos confrères, elle explique que tout va très bien, qu'elle aime tout le monde, etc. La réalité, c'est que c'est une militante pro-palestinienne, anti-sioniste et qui manipule tous les codes de l'antisémitisme. Au-delà de ça, le gouvernement, en tous les cas, Madame Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, totalement disparue. Combien de temps il a fallu pour qu'elle se réveille? Enfin, je me rappelle que c'est cette ministre qui voulait démissionner pendant la proposition de loi sur l'immigration, qu'elle le fasse maintenant.
Quand le Premier ministre dit on ne transigera pas, quand il avait été il y a quelques semaines à Sciences Po Paris, vous estimez que véritablement Gabriel Attal veut laisser voir proliférer ce genre de
manifestations? Mais ce sont des mots, ils sont incapables d'autorité. Quand vous voyez ce que la direction paillasson de Sciences Po a fait, c'est-à-dire pas de punition pour les bloqueurs, ils ont laissé finalement les choses se tenir, des tentes dans la cour de la Sorbonne qui était en train d'être montée, je crois, hier. Enfin, je veux dire, que ce soit la direction paillasson de Sciences Po ou que ce soit le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ce sont des gens qui ont peur. Ils ont peur. Ils
peur
sont
de quoi?
Peur de la LFI. Mmh. Peur de la LFI, peur de la violence de l'extrême-gauche, donc ils préfèrent laisser faire. Et puis peur de ramener les principes républicains fondamentaux dans nos établissements d'enseignement
supérieur. Alors, est-ce que vous soulignez à l'inverse la réaction ou la décision de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui annonce suspendre les financements de Sciences Po Paris?
Oui, mais je la soutiens dans le sens où je pense que ça permet de faire pression. Je pense que ça permet effectivement, et ça oblige la direction par exemple de Sciences Po à se bouger, à réagir. Donc ça, voilà, je y suis favorable. Ce qui est dramatique dans tout ça, c'est que ce sont 200 militants d'extrême-gauche wokistes de Sciences Po qui empêchent 13 ou 15 000 autres étudiants de suivre leurs cours.
Il faut les sanctionner, M. Chenier, très clairement.
Mais bien sûr.
Oui, mais lesquels? Est-ce que quelqu'un qui tient une manifestation pro-palestinienne, est-ce que c'est interdit ou est-ce que vous les mettez tous dans le même sac, si je vous entends bien, d'un soutien au Hamas?
Mais Madame Mabrouk, quand on occupe illégalement les locaux de Sciences Po, quand on empêche des étudiants d'entrer dans les locaux parce qu'on suppute qu'ils soient juifs, quand on a ce genre d'attitude, oui, on doit être sanctionné parce qu'on empêche les autres de vivre librement, on empêche les autres d'étudier librement et ils prennent en otage, je l'ai dit, c'est un braquage que fait la LFI de nos établissements d'enseignement supérieur et le gouvernement est totalement passif, qui ne dit mot consent. Madame Retailleau a laissé faire et ce laisser faire, il coûte très cher parce que ça fabrique de l'antisémitisme, ça fabrique de la haine. Et aujourd'hui, Sciences Po a totalement perdu son âme.
Même si c'est un braquage de la fille, comme vous le dites, vous n'êtes pas pour autant pour la judiciarisation du débat politique. On sait qu'aujourd'hui, Madame Panot et Madame Rima Hassan sont convoquées dans le cadre d'une enquête pour apologie de terrorisme. Vous disiez ça, hein, je suis hostile à la judiciarisation de la vie politique. Donc ces convocations ne sont pas justifiées, selon vous.
Mais écoutez, moi je pense qu'à la fin, c'est l'électeur, le français, le citoyen français qui doit juger dans les urnes. On a une liberté, et tant mieux, une liberté d'expression que conteste d'ailleurs souvent Madame Panot, Madame Hassan, parce que la liberté d'expression pour les autres, ça les gêne. On le verra peut-être si on en parle avec le licenciement de Jean-François Akili, votre confrère. Quand c'est pour les autres, la liberté d'expression, là, ils veulent la limiter. Quand c'est pour eux, ils veulent en profiter. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Je pense qu'à la fin, c'est jugé par les Français. Le fait que les tribunaux remplacent les électeurs me gêne.
Vous le dites aussi, j'imagine, parce qu'il y a la perspective d'un procès à la rentrée ou à l'automne qui concerne aussi Marine Le Pen.
Mais quand
vous êtes contre, évidemment, une judiciarisation, que soit l'adversaire et la personnalité
bien
politique.
Bien sûr, quand on a des principes, ils s'appliquent y compris à vos adversaires. Nous sommes au moins cohérents.
La campagne s'accélère en tous les cas des européennes. Sébastien Chenu, Emmanuel Macron a affirmé que le RN ne propose rien. Il y a 7 ans, il voulait sortir de l'Europe et de l'euro. Il y a 2 ans, on ne savait plus trop. Et Bruno Le Maire affirme que vous avez un programme économique communiste. Que lui répondez-vous?
Bon, écoutez, alors un coup on est l'extrême droite, un coup on est l'extrême gauche. Bon,
apparemment, c'est pas incompatible pour le ministre de l'économie.
Oui, mais enfin, se cacher derrière le verbe et insulter ses adversaires, quand on a ruiné la France, quand on a mis la France à genoux financièrement. Ça fait 7 ans que Bruno Le Maire est là, le chômage remonte, les entreprises font faillite, on n'a jamais eu autant d'entreprises qui ont fait faillite, et qu'on a ce bilan si désastreux des finances publiques, on évite d'aller accabler vos adversaires qui vous font des propositions. Donc quand on fait des propositions sur la taxation des surprofits, quand on fait des propositions sur la taxation du rachat d'actions, à chaque fois, car ce sont des propositions, nous on est là pour proposer, pour avancer, pour trouver des solutions, on est insulté. Quand on explique qu'il faudrait, comme le portait Marine Le Pen dans son programme, exempter les moins de 30 ans d'impôt sur le revenu. C'est pas vraiment communiste comme proposition.
Ce qu'il vous reproche, c'est le retour à la retraite à 60 ans qui coûterait des dizaines de milliards d'euros. C'est la nationalisation des autoroutes. C'est en cela où il estime que...
Mais la nationalisation des autoroutes, c'est redonner aux Français ce qui leur appartient et ce qu'ils ont payé. La retraite à 60 ans ou à 62 ans avec 40 annuités, il faut toujours le préciser, c'est les annuités qui comptent. C'est aussi une mesure de justice face à un gouvernement qui tape les classes populaires.
Il y a eu une donnée économique ce matin avec le PIB qui a progressé de 0,2%. J'imagine que vous saluez cela, c'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs pour le gouvernement et surtout pour la France.
Mais moi j'aime quand mon pays va bien, j'aime quand mon pays va mieux. Et nous quand on fait des propositions, je vous en parlais, je vous en donnais quelques-unes, ou la hausse des salaires de 10% en échange du gel des cotisations patronales, c'est pour redonner de l'oxygène aux Français, c'est pour que notre pays aille mieux. Mais quand je vois l'État dans lequel ces Mozarts de la finance ont mis les finances publiques, les prélèvements excessivement importants sur le dos des Français, la mauvaise répartition de ces prélèvements, l'ouverture de ces guichets à travers une foultitude de chèques qui ne résolvent rien, eh bien oui, je considère qu'ils ont ruiné et ils ruinent le pays.
Vous en avez parlé tout à l'heure, Sébastien Chenu, le journaliste Jean-François Aquili a donc été licencié par Radio France pour, je cite, faute grave. Cette décision, je le rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs, fait suite à un article du Monde affirmant que le journaliste et Jordan Bardella auraient échangé autour d'un projet de livre. Le journaliste maintient quant à lui qu'il n'a enfreint aucune règle journalistique ni déontologique. Vous avez eu des contacts avec lui pour le soutenir et dénoncer cette réaction.
Monsieur Aquili est un grand professionnel, il est reconnu comme tel. Moi, je ne sais pas pour qui il vote, et je m'en moque. Il n'a visiblement enfreint aucune règle. Est-ce que s'il avait eu discuté avec Jean-Luc Mélenchon pour écrire un bouquin avec Jean-Luc Mélenchon, il aurait subi ce même genre de règlement de compte? Est-ce que sur le service public, Madame Salamé, qui est l'épouse d'un candidat aux élections européennes, la compagne d'un candidat aux élections européennes, écrit un livre avec lui, a fait probablement un peu plus qu'écrire un livre avec Raphaël Glucksmann, et elle est à l'antenne. Donc, si vous voulez, ce deux poids, deux mesures.
Lors de la campagne,
ça fait des mois qu'on fait campagne, ça fait des semaines que M. Glucksmann est sur les plateaux télé. Et c'est pas, si vous voulez, c'est deux poids, deux mesures. On dit à Jean-François Aquili, dans un couloir, il a parlé à Jordan Bardella, qui cherchait quelqu'un avec qui écrire un livre, il est sanctionné. Ah, on est loin de Je suis Charlie, hein. On est loin de vous pouvez penser, dire ce que vous voulez. Et de l'autre côté, on a une journaliste de talent, Mme Salamé, qui est la compagne d'un candidat, et on trouve rien à dire dans le service public. Donc, ce deux poids, deux mesures. Avec l'argent des Français, ce zèle de Madame Veil, la présidente de l'audiovisuel public, en tous les cas de Radio France et de France Info, me semble tout à fait politique, me semble être tout à fait lié à la volonté de se soumettre au pouvoir en place, faire plaisir à Emmanuel Macron.
Et la réponse à ma question, pas de contact avec le journaliste?
J'ai envoyé un petit SMS pour lui dire mon soutien. On n'a pas une intimité particulière, mais je suis choqué qu'on donne la tête de Jean-François Aquili pour faire plaisir à un certain nombre d'adversaires politiques.
Merci Sébastien Chenu, c'était votre grande interview ce matin sur CNews Europe 1 et à bientôt.
Merci Sonia Mabrouk et merci Sébastien Chenu. Restez avec nous sur Europe 1, dans un instant vos signatures, on commencera avec Gaspard Proust, il est 8h27.
Bonjour, c'est Elisabeth Assayag.
Europe 1, la France bouge.
À quelques semaines des Jeux d'été, comment se préparent les entreprises locales au savoir-faire français? Pour cette 6e étape de la saison avec les chambres de commerce et d'industrie, nous serons ce soir à Anglette, près de Bayonne. J'accueillerai 3 start-up locales autour d'Alain Di Crescenzo, le président de CCI France, qui endossera le rôle du coach.
La France bouge, émission spéciale depuis Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques, avec la CCI.
Alors, je vous donne rendez-vous ce soir, nouvel horaire pour La France bouge, 21h, 22h sur Europe 1.
Maman m'a appris à toujours aller de l'avant, même dans les moments difficiles. Mais quand elle nous a quittés, j'étais bouleversé, je savais pas quoi faire, ni par où commencer. Alors j'ai appelé le 32 urgence décès. Un conseiller PFG était là pour moi et il s'est occupé de tout.
En cas de décès, appelez gratuitement le 32. Une équipe urgence décès PFG vous répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour une prise en charge partout en France. Urgence décès 32, un service PFG.
Ce mardi, jackpot Euromillions de près de 160 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ. Montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
La Meute, c'est le nouveau thriller d'Olivier Ball. Des notables enterrés vivants, des réfugiés assassinés. Le cauchemar a un nom, La Meute. Un groupuscule terrifiant qui pourrait bien faire vaciller la société. Pour l'enquêtrice Sofia Giordano, une plongée glaçante dans la mécanique du fanatisme. La Meute d'Olivier Ball, un livre XO.
Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid, ce soir à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG, demain à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon. 7h, 9h.
Europe 1 matin.
Gaspard Proust dans un instant sur Europe 1 à 8h30. Juste avant cela, le journal permanent, l'essentiel de l'actualité. Christophe Lamarre.
Il a 15 ans et vient de passer sa première nuit en prison à Châteauroux. Le meurtrier présumé de Matisse mis en examen pour meurtre et écroué. Sa mère est également mise en examen pour violence volontaire. Elle aurait giflé la victime alors qu'elle se trouvait au sol après avoir été frappée de plusieurs coups de couteau. La Sorbonne évacuée de la vingtaine de militants pro-palestiniens qui l'occupaient. Invité d'Europe 1 et CNews ce matin, le porte-parole du Rassemblement National Sébastien Chenu dénonce la mainmise du Rassemblement de la France Insoumise sur le monde étudiant. Plus 0,2 de croissance du PIB au premier trimestre, chiffre publié ce matin par l'INSEE, très légère hausse portée par la consommation des ménages. L'autoroute A13 Paris-Normandie rouvrira dans un seul sens d'ici deux semaines si tout va bien. Le chantier du musée de Saint-Cloud en contrebas est soupçonné d'être responsable des fissures qui ont entraîné sa fermeture.
Merci Christophe. Place au temps. Anissa Dadi, nous avons en ce jour des averses, des orages et quand même quelques éclaircies ça et là.
Oui, on a des pluies abondantes ce matin sur le Languedoc-Roussillon, notamment sur les Cévennes en particulier, avec vraiment un épisode de pluie soutenu encore ce matin. Ça fait plusieurs jours que ça dure. On a une bande pluvieuse qui va des Hauts-de-France jusqu'au pourtour méditerranéen, passant par la région parisienne, le Loiret, le Nivernais, l'Auvergne, le Limousin. Voilà, dans toutes ces régions, c'est très gris. C'est plus lumineux à l'ouest du pays, entre les Pays de la Loire et le Pays Basque. Plus lumineux également entre l'Alsace et les Alpes. Mais attention, cet après-midi, ça se gâte avec un temps instable et des orages qui éclatent entre la Bourgogne et les frontières du Nord. On est chaud aussi en Alsace aujourd'hui, d'où les orages, puisqu'on aura jusqu'à 25 degrés à Strasbourg et Colmar, 24 à Vesoul et Belfort, 22 à Nice, 20 à Paris, 18 degrés à Limoges, 17 à Carcassonne, 16 à Montpellier et 13 à Brest.
Merci Anissa Haddadi. Il est 8h32 sur Europe 1.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Voici vos signatures Europe 1 dans un quart d'heure. Le zapping politique de Dimitri Vernet avec Emmanuel Ducrot. Nous parlerons ce matin du guide de la révolution iranienne Ali Khamenei, qui s'intéresse beaucoup à ce qui se passe en ce moment du côté de Sciences Po et sur les campus des universités américaines. La revue de presse d'Europe 1 arrive aussi dans 5 minutes. Bonjour Olivier Delagarde.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Que lire dans les journaux ce matin?
Eh bien nous aussi, on va s'intéresser au risque de contagion antisémite dans les universités françaises. On parlera de l'état des routes en France et de l'histoire incroyable de la collection Renault, le marchand de bagnole, hein, pas le chanteur.
Allez, à tout de suite Olivier Delagarde. Mais d'abord, Gaspard Proust est avec nous. Bonjour Gaspard.
Bonjour les matinaliers, Dimitri, Anissa, Lagarde.
Bonjour Gaspard.
Comment s'est passé votre week-end Gaspard, puisqu'on sait qu'il ne s'est achevé qu'hier?
Qu'est-ce que vous êtes bien informé. Vous connaissez tous les détails de ma vie intime. Hein. Vous auriez dû faire procureur, Dimitri.
Ah, vous faites référence à cette conf de presse qu'a donné le procureur au sujet de l'affaire Kenji Girac, à qui on reprochait de livrer trop de détails. Hein.
Ah, franchement, je pense qu'on lui laissait une demi-heure de plus, il te donnait les chronos de Kenji aux 100 mètres course en CE2 et le nombre de fois où il a dit Ritano dans sa vie.
Vous avez vu que le jour du drame, Gaspard, toutes les caravanes ont quitté d'un coup le parking de Biscarrosse.
Soyez pas mauvaise langue, ça c'était prévu. Kenji aussi, il était censé se barrer. Mais essayez-vous d'accrocher une caravane de 42 mètres de long avec 12 pneus, une salle de bain en marbre, à une bagnole avec 2,5 g dans le sang. Hein, avec 2,6 dans le sang, la caravane, tu l'accroches à tout sauf à l'endroit où il faut. Je pense que les gendarmes, s'ils débarquent à l'improviste durant ta manœuvre, il y a moyen qu'ils te trouvent à moitié à poil, le caleçon sur la tête, en train de souffler dans le cul d'une poule. Hein, tu vois, le gendarme, il te demande, mais monsieur, vous êtes en train de faire quoi là ? Me déconcentrez pas, Napoléon. J'essaie d'accrocher ma caravane au crochet, mais il faut d'abord que je gonfle les pneus, parce que comme elle est posée sur des parpaings, allez, encore un effort.
Plus sérieusement, Gaspard, c'est un drame qui vous a touché, cette affaire Girac.
Bah, déjà, ça change de tous ces drames où les mecs tirent sur la fille quand c'est elle qui se barre. Hein. Ce geste de Kenji prouve qu'il existe aussi des mecs sensibles qui préfèrent s'en prendre à eux plutôt qu'à leur nana. Hein. Évidemment, zéro réaction des féministes.
Oui. Et comment vous expliquez un tel drame conjugal ?
Bah, si t'avais moi en tant que gadjo, je peux aussi comprendre le point de vue de sa meuf. Hein.
C'est-à-dire ?
Bah, faut se mettre à la place de sa nana, tu vas aller tomber amoureuse de lui, t'as le niveau de notoriété de Kenji, tu remplis des zéniths, tu gagnes plus que bien ta vie, à un moment tu dis à ta copine, j'aimerais te faire une surprise. Je nous ai trouvé un havre de paix, un petit nid d'amour que j'aimerais te faire, que te montrer. Et là, elle est là, oh mon Kenji, j'ai trop hâte, c'est pour ça que tu m'as mis un bandeau sur les yeux. Ah, trop hâte de connaître nos petits nids d'amour. Il y a une piscine, un jardin japonais, hein, un trampoline. Tu verras, mais Corazon, et ça, on ne surpresa. Donc, il l'amène, il lui retire le bandeau. Et là, Miskine, bon, elle voit une caravane sur un parking. Logiquement, elle se met à chialer, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe, mes Corazon? Mais enfin, Kenji, c'est un parking. Ah non, c'est plus qu'un karking. Non. Regarde, tu prends le giratoire, première à gauche, t'as le Buffalo Grill, deuxième à droite, le Saint-Maclou. En plus, on est juste à côté du point d'eau. Et cerise sur le gâteau, on a vu sur la rocade. Rocado, ta baila bailando.
Je ne sais pas si j'ose vous demander, Gaspard, ça, mais vous pourriez avoir ce type de geste, retourner l'arme contre vous, si vous étiez très malheureux qu'une femme vous quittait.
Alors non, moi j'ai résolu le problème en amont.
C'est-à-dire ?
Il y a une méthode très simple pour jamais se faire quitter, c'est de jamais se mettre en couple. Je vous assure, c'est une méthode radicale. 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est comme l'épilation en laser, c'est définitif. Et c'est tout con comme technique. Hein.
Oui.
Ah ouais, une fois Nana a débarqué, elle me dit « Bon Gaspard, j'ai beaucoup réfléchi. » Bon, là, le plus dur, c'était de pas me retenir de rire. Et elle dit « c'est ouais, j'ai réfléchi, n'importe quoi. » Et c'est décidé, je te quitte. Et moi, ah bon, on était ensemble, première nouvelle. Et là, ma petite parisienne déboussolée, ne sachant pas quoi répondre. Hein, tu vois, elle s'offusque, s'emballe, en une minute, elle enchaîne les positions de la chandelle, du chien tête en bas et du canard laqué. Et elle bafouille « Ah ben moi, je croyais que, mais enfin pourtant, tu m'as dit que j'étais la femme de ta vie, tu voulais même me faire des enfants. » Et moi, gentleman, mais factuel pour autant, je lui dis « Écoute Corinne, ouvre les yeux, t'es quand même assez grande pour savoir qu'un ovule, ça ne se cache pas dans les cheveux d'une femme. Oh non. Jusqu'à preuve du contraire, on ne conçoit pas un enfant en faisant un shampoing. »
Oh, qu'il est grivois, notre Gaspard.
C'est moi, absolument. Bon,
j'imagine que...
Et on pense à tous les gens qui se brossent les dents en ce moment.
Voilà, exactement. Bon, j'imagine que les manifestations pro-palestiniennes à Sciences Po et à la Sorbonne, ça vous a marqué, Gaspard.
Alors, ouais, mais je dirais pas tout parce que j'ai lâché mes surmulots sur le coup, donc je pense que demain. Mais forcément, j'ai suivi. Hein,
oui, donc
Ah bah, dès qu'il y a un endroit où se pointe Émeric Caron, c'est le Che Guevara version moustique-ophélie poivre et sel, quoi. T'sais, il était là à faire le kéké au milieu des étudiants en carté et les filles. C'était un peu la reine mère moustique avec tous les bébés moustiques autour. C'était plus Sciences Po, c'était Sciences Paludisme.
On lui a reproché à Émeric Caron de mollement s'interposer quand une équipe de CNews a été prise à partie.
Encore un geste de résistance qui restera jamais dans les annales de la lutte contre le faxisme. Selon la légende, au moment où Émeric Caron, Ben Pouachiche de Larissa Salafiste a repoussé la caméra de CNews, eh ben il paraîtrait que sur la tombe du Che, un pissenlit aurait poussé à l'endroit précis où se trouverait le pénis du révolutionnaire. Et ça, franchement, la dernière fois que c'est arrivé, c'est quand Pol Pot a hurlé aux Cambodgiens « Vous aimez l'agriculture ? Vous aimez le riz basmati ? Eh ben, je peux vous dire que vous allez très vite m'appeler Monsieur Toroélé. »
N'importe quoi. Merci beaucoup, Gaspard.
Je vous en prie.
Oui, c'est intéressant, c'est votre relation aux femmes, je trouve.
C'est...
Oui.
Est-ce que c'est si surprenant ? Vous êtes surpris, vous ?
Non, pas du tout.
Bon,
mais
voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je pourrais... Non, bah,
non, mais c'est une fille, vous devriez développer.
Comme tout à chacun, chacune développe ses relations avec le sexe opposé, bien sûr.
Et merci Gaspard Proust, on vous retrouve demain matin à 8h30 sur Europe 1. Dans un instant, restez avec nous, Emmanuel Ducrot vient de faire son entrée en studio. On parlera d'Ali Khamenei qui s'intéresse pas mal à ce qui se passe du côté de Sciences Po, on verra pourquoi. Juste après la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, il est 8h38.
Europe 1 matin,
7h-9h.
Dimitri Pavlenko.
En 2024, les enjeux pour l'économie du sport en France sont nombreux. Comment cette année sportive servira-t-elle de vitrine aux entreprises tricolores ? Réponse ce soir dès 21h sur Europe 1 dans La France bouge, présentée par Elisabeth Assayag, avec Alain Di Crescenzo, le président de CCI France, en partenariat avec la CCI Bayonne Pays Basque.
Bonjour, je suis Laurence de Carglass. On fait quoi en cas d'impact sur son pare-brise ? On appelle Carglass au 3044. Et si on a deux impacts, c'est toujours Carglass au 3044. C'est simple. Une urgence sur votre pare-brise ? Allô Carglass au 3044. Et pour prendre rendez-vous rapidement chez Carglass, c'est le 3044. Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
Chaque printemps, nous, producteurs de la coopérative des Noirmoutiers, récoltons la pomme de terre primeur de l'île. La Noirmoutier, c'est un an de passion et de travail pour une saison qui ne dure que 3 mois. Cette année, plus que jamais, nous avons à cœur de vous régaler chez vous. Profitez-en maintenant. La Noirmoutier, unique, comme son nom l'indique.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Europe 1 matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Tous les jours sur Europe 1, de 16h à 18h, Sophie Davant vous invite à participer dans la bonne humeur au grand jeu d'Europe 1.
Oui, vous serez aidé par sa bande de copains et son invité cet après-midi. Clovis Cornillac sera là sur Europe 1 pour le film Un petit truc en plus. Venez tester votre culture générale pour tenter de gagner le jackpot qui s'élève actuellement à 1000 euros. Vous pouvez vous inscrire par SMS en envoyant Sophie au 739-21, 75 centimes plus 3 SMS pour s'inscrire. Et cette semaine, en plus d'envoyer des SMS pour s'inscrire, vous pouvez tenter de gagner un magnifique séjour d'une semaine pour deux en Slovénie. Tirage au sort vendredi parmi tous les SMS de la semaine.
La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, avec ce matin le risque de contagion dans les universités françaises.
Oui, après Sciences Po, c'est la Sorbonne qui a été bloquée hier quelques heures, raconte le Figaro. Idem à Reims, à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. D'autres actions se préparaient à Strasbourg, Bordeaux, Rennes et Lyon. Et c'est d'abord le calendrier qui veut ça. Depuis 1968, on sait qu'en France, le mois de mai est généralement propice à la contestation étudiante. Et puis, il y a aussi ceux qui soufflent sur les braises. Et c'est Stéphane Dupont des Échos qui nous décrypte la stratégie de LFI qui est à la manœuvre. Les insoumis brandissent la cause palestinienne moins pour gagner des voix aux européennes que pour marquer les esprits en vue de la présidentielle, explique-t-il. Les jeunes, les musulmans, la gauche anti-israélienne lui seront acquis pour la prochaine échéance. C'est en tout cas le pari que fait Jean-Luc Mélenchon. Mais se rend-il bien compte de ce qu'il est en train de faire ? Des passions nauséabondes qu'il est en train de faire ressurgir ? Pour comprendre ce qui est en train de se passer dans nos universités, il faut sans doute observer ce qui arrive aux États-Unis. Et ce matin, c'est Nicole Bacharan qu'il faut lire, cette politologue. Grande spécialiste des USA, signe un long éditorial à la une de Ouest-France. C'est un antisémitisme radical, potentiellement assassin, exterminatoire, que l'on voit ces jours-ci s'enflammer sur les campus américains, écrit-elle. Et cette peste antisémite est nourrie par l'inquiétante dérive post-marxiste de la mouvance woke. Pour ces jeunes, poursuit Bacharan, le monde se divise en deux, les oppresseurs, blancs, mâles, et les opprimés, non blancs, membres d'une minorité religieuse ou sexuelle. Les premiers ont toujours tort, les seconds toujours raison. Les juifs, qui furent longtemps le groupe le plus menacé du monde, n'ont plus le droit au statut de minorité. Les voici devenus oppresseurs, blancs, qualifiés de nazis. C'est le retour du bouc émissaire sur lequel se concentrent toutes les pulsions de mort. C'est à lire à la une de Ouest-France.
Allez, on change complètement de sujet avec la une du Parisien qui pourrait sembler, après cela, anecdotique.
Oui, et même franchement parisien, parce que depuis quelques jours, un viaduc autoroutier qui enjambe la Seine est coupé. Des fissures ont été détectées, alors il y a bien sûr des embouteillages monstres, mais il y a plus grave. Car derrière le cas de la 13, c'est l'ensemble du réseau français qui se fissure, raconte Frédéric Mouchon. Et certains verront sans doute le signe de plus d'un décrochage de notre pays qui, jusqu'en 2012, était considéré par des classements internationaux comme ayant les meilleures infrastructures routières. Depuis, il y a eu une baisse du financement de l'entretien des routes, admet un spécialiste. Nid de poule, glissière de sécurité hors d'âge, 25 000 ponts seraient aujourd'hui jugés dangereux. Évidemment, tout cela coûte cher à entretenir, mais le journal rappelle que l'automobiliste, à travers les taxes sur les carburants, verse 45 milliards chaque année à l'État pour l'entretien de la chaussée. Seulement, cet État a perdu le réflexe d'utiliser cet argent pour entretenir le réseau.
Allez, on reste dans le monde de l'automobile, mais on parle cette fois d'art contemporain.
Et c'est une histoire singulière que nous raconte Martine Robert dans Les Échos. Celle de la régie Renault, qui dans les années 70 est devenue l'un des premiers collectionneurs d'art au monde. Le constructeur automobile invitait effectivement des flopées d'artistes à créer dans ses usines. Armand, Vasarely, Dubuffet, Nikita Saint-Phalle, Rauschenberg et beaucoup d'autres. C'est un certain Claude Renard, cadre à la régie, qui arrive à convaincre le PDG de l'époque de faire venir des artistes dans les usines pour qu'ils s'approprient les moyens de production. Sans Renault, Armand n'aurait jamais pu faire toutes ces célèbres compressions, explique le journal. En 10 ans, la collection Renault va s'enrichir de 550 pièces, parfois monumentales, puis tout s'arrête au tournant des années 80. Commence alors une autre histoire, celle du détournement de la collection, un scandale incroyable mais qui n'intéresse plus grand monde chez Renault. Aujourd'hui, cette collection pourrait enfin retrouver un peu de lumière. Une partie des toiles va tout de même être vendue aux enchères. Alors, ce tableau-là, aucune chance qu'il soit un jour vendu par le Louvre, mais on se demandait quand même un peu ce qu'il était devenu. On termine avec le grand retour du tableau le plus célèbre de Delacroix, La liberté guidant le peuple. Alors évidemment, même si vous n'êtes pas amateur d'art, vous avez forcément vu sa reproduction des centaines de fois, cette dame dépoitraillée, brandissant un drapeau tricolore sur une barricade. Les plus vieux d'entre nous se souviennent qu'il ornait les billets de 100 francs. Eh bien, le tableau est de retour après 6 mois de restauration, nous indique le Parisien. Yves Jéglé, qui a pu le voir, affirme que les couleurs sont superbes. On pourra le redécouvrir à partir de jeudi au Louvre, et y emmener les étudiants de Sciences Po. On leur expliquera que le tableau n'est pas inspiré par 1789, mais par les Trois Glorieuses de 1830. Normalement, ils doivent avoir appris ça. On leur montrera aussi, et ça c'est moins sûr, que c'est bien la liberté, et non pas le wokisme, qui doit guider le peuple.
La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Merci beaucoup, Olivier. Et juste un détail, vous avez parlé de détournement de la collection Renault.
Oui,
qui a détourné cette collection?
Eh bien, c'est un promoteur immobilier. Oh. C'est une histoire passionnante. C'est une pleine page dans Les Échos. Honnêtement, je vous conseille vraiment de lire ça. Une histoire absolument incroyable.
Vous nous avez donné envie, en tout cas, d'ouvrir les journaux. Merci beaucoup, Olivier. Votre mission est accomplie. Vous avez rendez-vous sur Europe 1, vous le savez, de 11h à 13h pour discuter de l'actualité. Vous prenez la parole, exprimez votre point de vue. On vous attend avec Pascal Pro qui est avec nous. Bonjour Pascal.
Bonjour. Alors, je ne vais pas vous parler de ce qui sera l'actualité tout à l'heure, parce que cette actualité, vous la connaissez. Mais en revanche, parfois, nous faisons un pas de côté et nous parlons de choses différentes pendant ces 2 heures. Et c'est de cela dont je vais vous parler ce matin. Par exemple, est-ce que vous dormez avec un doudou?
Non, je dors avec un coussin, moi.
Parce que, figurez-vous que c'est un article du New York Times. Certains adultes ne quittent pas leur doudou, même dans le lit conjugal.
Ah oui, le doudou, oui. Oui.
C'est ça, le doudou, oui.
Oui, mais la peluche dans l'enfance,
la peluche,
quoi, c'est ça.
Oui. Bah, bien sûr, donc ça, c'est une question.
Non, j'ai plus
autre chose complètement légère, est-ce que vous répondez à un appel inconnu? Voilà une question intéressante.
Ah bah
66% des Français ne répondent jamais ou rarement au téléphone lorsque le numéro d'appel n'est pas identifié.
Et vous répondez, vous, Pascal? Ça dépend de l'humeur du moment.
Alors, je vais vous dire oui, parce que je sais qui m'appelle, parfois, en inconnu.
Et comment vous savez si c'est en inconnu?
Je le sais, parfois, c'est pas lui.
Parce que c'était lui.
Je connais une personne qui m'appelle toujours en inconnu.
Ah.
Qui est au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Et, non, je blague. mais c'est vrai que là, je connais une personne qui m'appelle toujours en inconnu, donc je sais que c'est lui. Hop, je réponds.
Et vous avez un doudou?
Non, je n'ai pas de doudou, mais j'ai en revanche le doudou de mon enfant, je sais où il est. Oui, il est dans un cadre, enfin bref.
Ah oui, c'est une relique. Hein.
Oui, ah ben non, mais ma chambre d'enfant.
Ouais.
Donc, voilà. Ah ben ma mère a fait visiter, elle a mis un petit cordon rouge.
C'est un musée. Musée Pascal Pro.
Il y a le poster de Dominique Rocheteau, il n'y a rien à changer.
C'est
chaussons,
la blanche à poil.
Bon, et qu'est-ce que. Alors, autre chose, par exemple, on connaît les numéros les plus chanceux du loto.
Ah oui,
ceux qui sont sortis le plus régulièrement.
Attendez, je note.
En 2023, c'est les 12 et le 13, parce que ce soir, il y a encore un euro million à 150 millions d'euros.
166.
Et puis,
c'est
pour terminer.
Gris, Anissa, le 12 et le 13.
Non,
je suppose, parce qu'elle joue tout le temps.
Et puis, pour terminer. terminer, évidemment, par de l'actualité classique hein, entre 11h et 13h, mais ces petits sujets, parfois, on pourra en parler. Et vous avez vu que Fantomas, il y a une saga Fantomas sur Netflix qui ressort. Jean Marais, Louis de Funès, vous vous souvenez ? T'aurai, Fantomas. Bon, L'Ordre m'a craché, pendu dans ma chambre. Bon, le premier film est sorti en 1964. Vous connaissez L'Ordre m'a craché ?
Qu'est-ce qu'il met dans son café le matin ?
L'Ordre m'a craché, Jean-Roger Cosimon.
Oui, bah oui.
Avec Françoise Christophe. Et magnifique.
Netflix ressuscite Fantomas.
Ben oui, Fantomas. Fantomas.
Fantomas. Oh, c'est Fantomas.
Mais c'est génial, Fantomas.
Oh, ça n'a pas pris une ride.
Je sens qu'on va bien s'amuser ce matin sur Europe 1 de 11h à 13h avec vous, Pascal.
Écoutez, voilà, oui, ça... alors je ne sais pas si on va bien s'amuser parce que l'actualité est dramatique, mais on pourra effectivement, à travers cette actualité, évoquer des choses un peu plus légères.
01 80 20 39 21, numéro non surtaxé pour joindre Pascal Pro. Pascal Pro et vous, c'est tous les jours de 11h à 13h sur Europe 1.
Bon, allez, c'est aussi à partir de 9h pour.
Je termine quand même parce qu'il y a un réalisateur qui cherche un sosie de Derrick.
Oui, ben on l'a trouvé, il est à côté de vous.
Ah bon ?
C'est Olivier Delagarde.
On a suggéré sa candidature, ah bon, mais il n'est pas d'accord. Il va falloir
il est grand comme Derrick.
Mais, bah, mais non, mais alors là.
Mais
non.
Ça sera une femme de toute façon.
Oui, alors là, c'est sans doute.
Ça sera Derrick.
Gaspard a compris
beau
les
Derrick.
Ouais. Beau Derrick.
Ouais. Allez, on enchaîne. Emmanuel Ducrot, c'est à vous.
C'est pas facile tous les jours. Hein.
Oui, surtout que là, on va monter dans le sérieux avec ce baiser de la mort dont vous nous parlez ce matin, Emmanuel. C'est celui donné par Ali Khamenei, le guide suprême de la révolution islamique d'Iran. Baiser de la mort aux étudiants qui bloquent les campus aux États-Unis, que ce soit donc là-bas ou en France.
Baiser de la mort sous forme de message sur le réseau social X. On y voit un montage de scènes de manifestations de campus assorti d'un message de l'ayatollah Khamenei triomphant. Voyez ce qui se passe dans le monde, dans les pays occidentaux, en Angleterre, en France, ainsi que dans les États américains. Les gens sortent en grand nombre pour scander des slogans contre Israël et l'Amérique. La réputation des États-Unis et d'Israël a été ruinée. Ils n'ont vraiment aucune solution.
Ouais, message en français, hein, d'ailleurs, je le précise. Et ça rend bien service au régime des mollahs, toute cette activité sur les campus. Hein.
On savait les manifestants des campus utilisés pour servir bien d'autres desseins que la cause palestinienne. On les savait manipulés politiquement par tout ce qui se fait d'anticapitalistes ou d'antisémites. On les savait gibier de choix pour les populistes cyniques type LFI. On les découvre maintenant idiots utiles d'une dictature théocratique. L'Iran des fous d'Allah les utilise comme des faire-valoir, comme des cautions de son régime de terreur, antidote à l'Occident décadent, à la mainmise des juifs, pardon, des sionistes sur le monde.
Et vous nous dites, Emmanuel, que en fait, les masques tombent avec ce message.
Mais oui, le jeu préféré des manifestants d'extrême gauche, c'est celui de « Choisis ton camp, camarade ». Et bien les voilà collés avec un allié difficile à défendre, à moins de beaucoup, beaucoup se contorsionner, que les islamistes obscurantistes crachent au quotidien l'antisémitisme le plus décomplexé sur les campus. C'est presque vu comme une qualité par les temps qui courent. Mais le prix de la détestation commune d'Israël et des juifs, pardon, des sionistes, c'est de devoir à l'avenir se taire pour tout le reste. La mise à mort des femmes dévoilées, l'emprisonnement et la torture des opposants, l'assassinat des homosexuels, la condamnation à mort par pendaison des chanteurs de rap.
Alors ça a déjà commencé quand l'Iran et Israël ont échangé des missiles il y a 3 semaines. Hein.
Les redresseurs des torts des campus, toute la gauche anticapitaliste se sont rangés comme un seul homme derrière les mollahs, victimes innocentes des sionistes conquérants. Abdication et mémoire très, très sélective.
Alors, cette sortie d'Ali Khamenei, est-ce qu'elle a provoqué des réactions dans la gauche LFI, par exemple ?
Bien, la passionnariat pro-palestinienne Rima Hassan, candidate LFI aux européennes, a bégayé, littéralement bégayé, sur le plateau de France 2 quand on lui a demandé sa réaction à ce câlin des mollahs. Elle a prétendu qu'elle n'avait pas vu. C'est ce qu'elle avait de mieux à faire. Et bien, d'ailleurs, elle n'est pas la seule. Tout le parti a perdu la vue. À la Sorbonne, à Sciences Po, personne ne bronche. Personne dans cette lutte radicalisée pour dire clairement que la cause palestinienne ne vaut pas la compromission avec la dictature iranienne. Vous connaissez l'adage, pour dîner avec le diable, il faut une longue cuillère. Il faut aussi accepter de mêler son âme et sa morale à une tambouille empoisonnée.
Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup, Emmanuel. 8h52.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Et voici le zapping politique Europe 1. Bonjour Dimitri Vernet.
Bonjour à tous.
Hassan, une rhétorique impitoyable.
Il faut bien distinguer la langue que je parle, c'est celle du droit international.
Oui, Rima Hassan, la candidate LFI aux européennes, était l'invitée de France 2 hier matin.
Elle a soutenu l'occupation des facs par les militants pro-palestiniens.
Vous appelez à une généralisation des occupations de facs ou d'IEP en France ?
J'appelle à une mobilisation non pas que dans les facs, dans toute la France.
Un soulèvement également approuvé, on le disait, par l'ayatollah Ali Khamenei sur les réseaux sociaux, un des pires dictateurs de la planète. Et là, bizarrement, notre cher spécialiste des questions internationales a complètement botté en touche.
Non mais je n'ai pas vu ce tweet, donc je ne suis absolument pas, en l'occurrence, je ne connais même pas. Donc c'est pour vous dire, je ne suis même pas sur les réseaux.
Mais encore, Rima ?
Vous ne connaissez pas Khamenei ?
Non mais je le connais. Si. Je suis pas quotidiennement ce qu'il poste ou ce qu'il commente en termes d'actualité. Je ne suis pas ce qui peut être commenté en termes d'actualité.
D'accord. Bon, effectivement, ça roucoule la langue du droit international.
Hassan, une rhétorique impitoyable.
Il faut bien distinguer la langue que je parle, c'est celle du droit international.
Sur France Info, c'est Pierre Moscovici qui a été invité, le président de la Cour des comptes, également professeur à Sciences Po, qui a réagi à ces manifestations pro-palestiniennes.
Je comprends les étudiants qui sont heurtés par ce qui se passe à Gaza. Je comprends les étudiants juifs et autres d'ailleurs qui ont au cœur ce pogrom.
Oui. Pierre, le pacifiste, souhaite l'apaisement.
Et quand même, il faut réapprendre à se parler sans débordement. Ça, c'est peut-être un slogan un peu cucu que je dis la praline, mais c'est comme ça.
Merci Pierrot, le président de la Cour des comptes, cucu la praline, qui était surtout là pour parler... Bonne nouvelle, bien oui, de la note souveraine de la France, inchangée par les agences de notation malgré la dégradation de nos finances publiques.
Là, vous n'avez pas de dégradation. Eh bien, j'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle qui ne change rien. Je peux essayer d'expliquer.
Une bonne nouvelle qui ne change rien. Bon, effectivement, on veut des explications, Lapierre.
Ce qui est problématique de ma part, pour moi, c'est pas la comparaison avec la Grèce, c'est une comparaison absurde.
Ah bah, c'est parfaitement clair, là, on a tout compris. Merci, Pierre. Après, dans le ciel, on a quand même bien mieux. Le ministre des Transports, par exemple, Patrice Vergriete, sur RMC Story, parlant de la réouverture de l'autoroute A47.
Est-ce que c'est rouvert ce matin ? Est-ce que vous avez des nouvelles ?
J'ai pas encore de nouvelles, je ferai le point tout à l'heure et dans la journée.
Problème, même les auditeurs ont plus d'infos que le ministre.
Et on va remercier Jean et Ali qui vous signalent, monsieur le ministre, que l'A47 est bien rouverte ce matin.
Depuis
quelques minutes, voilà, l'info est remontée.
On termine, bien sûr, avec Anne Hidalgo, la maire de Paris, en pleine introspection ces derniers jours.
Peut-être que pour être populaire aujourd'hui, il faudrait être très réactionnaire, très anti-démocratique et très corrompu. Moi, je préfère ne pas être populaire, mais rester quand même alignée avec mes valeurs.
Bon, au moins elle reconnaît ne pas être populaire. C'est bien, on avance.
Ça s'en va et ça revient.
Voilà le zapping politique. Merci beaucoup Dimitri Vernet pour votre travail de débrief de toutes les matinales. Il y a Louis Boyard qui était à l'instant sur...
On en parle demain.
Voilà. Donc, vous nous débrieferez tout ça.
Bien sûr.
Voilà, il est 8h56 sur Europe 1. Vous avez rendez-vous à partir de 9h30, pardonnez-moi. Culture Média, Thomas et les invités ce matin, Anissa Dadi.
Alors l'invité média, c'est celui qui reçoit de nombreuses personnalités et qui leur demande souvent, vous savez combien ils gagnent, combien ils vont toucher de retraite.
Jordan Deluxe
sera l'invité de Thomas tout à l'heure à partir de 9h30 pour la sortie de son livre « À quoi tu sers ?». L'invité culture à partir de 10h, Claire Marin, la philosophe, pour son livre « Les débuts, par où commencer ?». Et puis le coup de cœur musical en live depuis le studio Coluche, le chanteur Hervé.
Voilà, musique, média, philosophie. Quel programme encore ce matin dans Culture Média sur Europe 1. On vous souhaite une excellente journée. Dans un instant, l'info continue. Je vais y arriver. L'heure des pros, Pascal Pro. Bonne journée.
Europe 1. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Oui, allô.
Allô de Volvic, patron. Parce qu'en ce moment chez Lidl, le pack de 6 bouteilles d'un litre 5 de Volvic est à 3,18€ et le deuxième est à moitié prix, soit 1,59€.
Moins 50% sur le deuxième pack ? C'est une offre...
Très volcanique, comme la Volvic.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 35 centimes le litre pour un pack, 27 centimes le litre pour deux packs. Offre valable jusqu'au mardi 7 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde ? DS Automobile présente le surclassement en DS7 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? En ce moment, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS7 Crossback E-Tense hybride rechargeable d'occasion à partir de 390€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
La Poste. Index. Mot masculin qui désigne le deuxième doigt de la main, doigt situé entre le pouce et le majeur, qui est souvent très utile pour indiquer le bon chemin à quelqu'un ou à son courrier lorsque l'on change de domicile.
Alors, à l'aide de votre index, cliquez sur laposte.fr et faites suivre facilement et rapidement vos courriers vers votre nouvelle adresse. Avec les bons plans logement de La Poste, la réexpédition du courrier pendant 6 mois est au prix de 47€. Voir conditions de l'offre sur laposte.fr.
Ce mardi, jackpot Euromillions de près de 160 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Europe 1 et CNews, 9h, 9h30, l'heure des pros, Pascal Praud.
Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin sur Europe 1 de 9h à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. Quand Mathis, 15 ans, est tué de plusieurs coups de couteau en pleine rue à Châteauroux par un jeune homme de nationalité afghane, le maire de la ville, Gilles Avrous, ex-UMP, aujourd'hui divers droite, explique que l'ensauvagement des mineurs est un problème central de notre société. Il a raison sans doute. Mais tous les jeunes de 15 ans n'ont pas sur eux un couteau ou une arme blanche. À aucun moment, Gilles Avrous n'a pointé la responsabilité de l'immigration massive et de l'arrivée sur le sol de France d'individus qui ont grandi dans d'autres pays, avec d'autres codes, sous l'influence d'une autre culture et qui transfèrent ici des habitudes, des comportements qu'ils avaient ailleurs. Manuel Valls disait hier que le drame de Châteauroux interroge sur la politique migratoire. Il me semble